La soirée aura pour thème les manipulateurs, les repérer et s'en protéger. Je vais parler à propos de notes que j'ai prises dans un livre du père Pascalide, Manipulateur, des personnalités narcissiques détectées, comprendre, agir, aux éditions de l'Emmanuel. Donc, à tout seigneur, tout honneur, je vais reprendre en grande partie des notes de son travail. Donc ça, c'est un livre, je trouve, qui est sorti en 2016, qui est intéressant. Père Pascalide, dont un prêtre de la communauté de l'Emmanuel, qui a écrit de nombreux ouvrages, qui est à la fois docteur en médecine, en théologie et en philosophie. Certains peut-être le connaissent, c'est vraiment une tête chercheuse, tout le temps à avoir mille idées secondes, etc. Et puis, je trouve intéressant parce que pour plusieurs points de vue, premièrement, il aborde la question de la manipulation dans l'Église, chose que les autres ouvrages, parce que en le lisant, j'ai appris qu'il y avait à peu près 80 ouvrages en langue française sur le sujet de la manipulation et des manipulateurs, mais pas abordé dans l'Église, parce qu'il faut être aussi du personnel de l'Église pour pouvoir prendre conscience de ça. Donc lui, il le fait. Il aborde un autre point aussi je n'ai pas vu ailleurs, c'est la partie morale, la responsabilité. Ça peut être une maladie, mais il y a aussi une part de responsabilité. Donc il analyse ça très bien. Je donnerai un peu les meilleures pages parce que je crois que c'est ça qui est important. Il y a un autre livre, qui est plus ancien, fin des années 90, si je ne me trompe, de Isabelle Nazar Aga. Nazar, N-A-Z-A-R-E, plus loin, Aga, A-G-A. Isabelle Nazar Aga, qui est celle qui a vraiment lancé, j'allais dire, la réflexion sur la question de la manipulation. C'est deux livres, j'allais dire, dont je me suis inspiré, surtout le livre du père Pascalide. Mais sachez qu'il y a d'autres, il y a plusieurs ouvrages sur cette question-là. Alors, introduction. Introduction. On confond souvent manipulateur et pervers narcissique. Donc, on va voir un certain nombre de notions de psychologie qui sont importantes pour comprendre le mécanisme. Et le père Pascalide fait bien la différence. La perversion et la personnalité perverse et la personnalité narcissique ne sont pas les deux ensemble. La personnalité perverse, de même tous les pervers ne sont pas narcissiques et tous les narcissiques ne sont pas pervers. Les pervers, ça vient de la psychanalyse et qui dit « aime provoquer de la souffrance chez l'autre ». À cause de sa personnalité et par son égoïsme et avec intention. Ça, c'est la personne perverse, parce que c'est un peu des mots, on entend, mais lui, c'est un peu la maladie moderne, mais lui, c'est un pervers narcissique. Alors bon, il faut d'abord s'assurer qu'on ne dise pas n'importe quoi, et c'est vrai que c'est un petit peu à la mode, cette question-là de manipulateur, manipulation, etc. La personne qui, elle, est narcissique, le père Pascalide dit... elle se dédouble. En plein, il y a une boursouflure de l'ego, et en creux, il y a un monde sans un autre. C'est-à-dire que la personnalité narcissique, si elle n'est pas au centre, elle n'est nulle part. Et ça, il faut bien comprendre ça. C'est que la personnalité narcissique utilise les autres pour combler sa faille narcissique. Ça veut dire quoi ? Sa faille, pour combler son manque d'estime d'elle-même. La question du narcissisme est quelque chose d'important pour se construire, pour avoir une confiance en soi, etc. Ça demande d'avoir aussi un aspect narcissique en soi. Mais la personnalité narcissique, c'est différent. Il y a une boursouflure de l'ego, mais qui cache au fond, derrière, un vide sidéral, une faille sidérale. Cette personne-là, souvent brillante, parce que pour manipuler les autres, il faut être brillant, cette personne-là, souvent brillante, va s'appuyer les autres, va un peu vampiriser tel ou tel pour combler ce manque qui n'arrivera jamais à être comblé. Donc du coup, elle a recours à différents stratagèmes pour qu'on verra. Manipuler, ça veut dire conduire par la main, on est toujours dans l'introduction, conduire par la main, manier avec soin, manipuler des produits dangereux par exemple, mais appliqué au psychisme, c'est conduire la personne là où elle ne veut pas. La manipulation est le signe de la maladie, la personnalité narcissique. Vous voyez, On dit manipulateur, mais c'est plutôt l'expression d'une pathologie qui est la personnalité narcissique pathologique. Donc c'est ce qu'on appelle manipulateur. C'est l'expression, comme je ne sais pas quoi, vous avez une infection, l'expression de l'infection, c'est la température. Mais la température n'est pas la maladie. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Alors on peut se poser la question, mais est-ce que par exemple le missionnaire, la personne de conviction, n'est pas aussi un manipulateur? Parce que, il veut quelque part aussi conduire à ce que vous adhériez à sa propre vérité. Et là, le père Pascalier dit quelque chose d'intéressant, c'est que s'il veut conduire à lui-même, oui, il manipule parce qu'il veut s'attacher les autres à lui. Mais s'il veut conduire à une conviction qui l'habite et dont il veut rendre témoignage, ce n'est pas une personne. Il veut juste convaincre, mais libre à vous, j'allais dire, d'accepter ou pas. J'allais dire, il y a des professions où c'est un peu comme ça. Par exemple, vous allez chez un vendeur automobile, il va bien sûr vous vendre en vous disant « mais cette voiture d'occasion, elle est ceci, elle est cela ». Bon, c'est un manipulateur professionnel, mais on s'attend à ce que, voilà, c'est son travail, il négocie, il montre les aspects positifs. Vous allez, par exemple, dans la grande distribution, vous êtes manipulé de A à Z. Mais on le sait d'avance, parce qu'à tel rayon, telle hauteur de rayon, il y a les produits avec le plus de marge. On vous fait passer par tel cheminement pour aller, c'est l'alimentation, donc on vous fait passer par les vêtements, par les ceci, etc., pour que vous voyez tout, vous soyez temps. Mais tout ça, on le sait, quelque part, c'est pas de cette manipulation-là dont on va parler qui est d'ordre un peu professionnel, je veux dire, on veut conduire l'autre par la main, mais l'autre aussi, il n'est pas non plus idiot, il sait très bien que, voilà, c'est le jeu et que dans une négociation, on veut, bon. Là, on va parler des manipulateurs relationnels. C'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas les professionnels, c'est les relationnels. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est mis un peu à toutes les sauces. Quand vous tapez, par exemple, manipulation ou manipulateur sur Google, vous avez 42 000 résultats. Pervers, 55 000 résultats. Pervers narcissique, 35 000. Alors que quand vous tapez, par exemple, autisme, vous avez 1480 résultats. Donc ça veut dire qu'il y a un effet de mode, ça je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui est ressorti plus fortement ces temps-ci, sachant que le risque de cette conférence, parce que vous êtes dans une conférence assez risquée, même si vous n'en avez pas forcément conscience, c'est d'en voir partout. Ils sont partout, et de fait... vous sortez, mais oui, mais la fille, elle s'est assise à côté de moi, elle m'a dit bonjour, mais est-ce qu'elle ne veut pas me manipuler, etc. Bon, non, il y en a, ok. Mais attention, faut pas. Mais le risque un peu avec un truc comme ça, c'est qu'un peu devenir parano, si vous voulez. Donc, on voit partout des manipulateurs, etc. Bon, non. Alors, de fait, le titre, par exemple, du bouquin de Isabelle Nazaraga, qui a lancé cette réflexion, les manipulateurs sont parmi nous. Vous voyez, il y avait comme ça, voilà, on se dit, ils sont parmi nous, un peu comme les extraterrestres sont parmi nous, il faut les découvrir. Bon, alors, je pense qu'il faut. C'est des personnes qui existent. Ça existe dans l'Église aussi, on le verra. Ça existe dans l'entreprise, ça existe dans la vie amoureuse et la vie amicale. Mais bon, voilà, donc attention de ne pas... ce qu'on va voir, c'est un peu comment les repérer, quoi. Et puis surtout, se faire aider pour ne pas mettre tout de suite l'étiquette pervers narcissique parce que je ne peux pas supporter l'autre, parce que l'autre m'agace. Alors, c'est un pervers narcissique. Non. Sinon, y a toute une liste formidable, voilà. Alors, ça, c'était l'introduction. Premier chapitre, les signes d'une... personnalité narcissique. Donc on va parler plus de personnalité narcissique, vous avez compris, pervers narcissique. Pervers veut dire aimer faire souffrir l'autre, en avoir conscience et jouir du fait de la manipuler en la faisant souffrir. Bon, c'est déjà un certain degré pathologique, hein, mais là on va parler des personnalités narcissiques. Comment les reconnaît-on? Alors, il y a plusieurs ouvrages qui proposent des listes, par exemple... L'ouvrage d'Isabelle Nazaraga propose 34 points. Et donc, s'il y en a au moins 25 sur ces 34, elle vous dit, vous êtes en face de cette personnalité-là. Bon, il y en a qui 7, 10, 30, voilà. Alors, on peut les séparer plutôt en deux grandes catégories pour retrouver les personnalités narcissiques. Les relations que cette personnalité a avec elle-même Et deuxième catégorie, les relations qu'elle a avec les autres, avec elle-même. Premièrement, c'est un sentiment d'être exceptionnel, hors du commun. C'est une personne qui pense que beaucoup de choses lui sont dues. Elle ne peut quelque part pas être comprise parce qu'elle est géniale. Et de fait, les personnalités narcissiques ont quelque chose de génial. Ils attirent beaucoup par leur intelligence, par leur culture, par leur charisme. Bien sûr, si quelqu'un m'a mal fagoté, inintéressant avec une haleine de poney, il est peu probable qu'il soit, ce soit une personnalité narcissique. C'est bon, ça peut arriver, mais bon. Il est préoccupé des ambitions, et il ambitionne des succès éclatants. Voilà, ça le fait vibrer, ça le remplit. Autre point, il est très soucieux de son apparence physique et vestimentaire, entretient le culte de l'esthétisme. Toujours à quatre épingles. Mais de façon, non pas qu'il faille mal s'habiller, mal phagocyter, voilà, comme l'as de pique, non. C'est qu'on sent qu'il y a une recherche d'esthétisme à travers ça. Autre point, il n'accepte pas, alors je dis il parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, hein, sur quatre personnalités narcissiques, il y a trois hommes, une femme, statistiquement. Il n'accepte pas sa fragilité, son erreur, son échec, et on accuse les autres. Si je me suis trompé, je ne sais pas quoi, on m'a qu'à citer le cas d'une personne qui était, mais même quelque chose qui n'avait pas d'importance, elle n'était pas sortie à la bonne sortie du périphérique. Tu n'aurais pas pu me le dire. Mais pourquoi tu m'as laissé me tromper? Regarde, maintenant je me suis trompé, etc. Mais non, mais t'es à fond de toi. Mais comme c'est, il y a de l'échec, dès qu'il y a une faille, dès qu'il y a une fragilité, dès qu'il y a une erreur, ça appuie tellement sur son vide intérieur que voilà, les autres en sont forcément responsables. Donc ils culpabilisent, évidemment, si on verra la relation aux autres, ils culpabilisent les autres, c'est vraiment... Il n'éprouve aucune honte, aucun regret. C'est des personnes qui, si vous lui reprochez quelque chose, il dit mais est-ce que c'est pas au fond de ta faute? Vous voyez, il retourne toujours les choses. Il n'a pas d'estime de lui-même, ce que je vous ai dit au début. Il colmate ses brèches en vampirisant les autres. Voilà, un peu par rapport à sa relation à lui-même. Quant à la relation aux autres, plusieurs points. Éprouve peu d'empathie pour les autres, mais a une grande capacité à se représenter ce que l'autre vit à l'intérieur de lui-même, très doué pour percevoir les failles de l'autre. Alors ça, c'est aussi, j'ai fréquenté d'assez près des personnalités narcissiques, entre autres dans la vie religieuse, et c'est assez saisissant. Il vous capte comme personne ne vous a capté jusqu'à présent. Il détecte en vous des choses que personne, peut-être même, avait soupçonnées. Et c'est une manière d'attirer, évidemment. Il aime parler de lui, ne s'intéresse pas aux autres. Voilà. Pour lui, le monde se divise entre, d'un côté, les admirateurs inconditionnels, de l'autre, les indifférents qui sont des ennemis potentiels. D'un côté, des admirateurs inconditionnels, de l'autre, des ennemis potentiels. Le monde se divise comme ça pour lui. Hein, on est pour moi ou on est contre moi. Et si c'est dans l'Église, mais Jésus ne l'a pas dit ça. Parce que c'est vrai que Jésus a dit ça. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais si ce n'est que c'est Jésus, c'est-à-dire c'est aussi, voilà, c'est... Et puis il n'a pas dit que ça. Alors que lui, c'est clivant. Il aime être clivant. Il aime, quelque part, sa présence. Dès qu'arrive une personne narcissique comme ça, sa présence divise. Ça, faut être attentif. Sa présence divise. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Et il adore qu'on parle de lui en l'absence de lui. Ça, c'est quelque chose qu'il affectionne particulièrement. Parce que même absent, il est encore au centre. Il culpabilise les autres sans jamais se remettre en cause. C'est lui la victime. Éprouve de la colère lorsqu'on ne lui donne pas les privilèges qui lui sont dus. utilise son intelligence, sa notoriété, son charisme pour exploiter, manipuler les autres afin d'atteindre ses buts. Parce que c'est quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un qui est brillant, c'est quelqu'un qui... Il a un sixième sens, comme je voulais dire, pour percevoir dans l'autre un certain nombre de choses, le capter comme ça, et ensuite se l'attirer à lui. Hein, et donc, il a un charisme. Ça peut être l'ami très charismatique qui a toute une cour autour de lui. Il n'a pas des amis, il a une cour. C'est pas pareil. Il a une cour, il a des fans. Il a des gens, voilà. Il est le centre de mais il y en a qui ne jurent que par lui. Il mélange, alors les genres, alors ça c'est très typique parce que c'est quelqu'un de transgressif. La personne narcissique, la personnalité narcissique est une personnalité transgressive. Hein, il mélange le spirituel, le sexuel, le financier. Il mélange les genres. Et on a vu, et le père Pascalide en parle dans son livre, les difficultés qu'ont eu un certain nombre de fondateurs de communautés nouvelles, où on voyait des communautés qui réussissaient, qui avaient des vocations, qui, etc. Ces personnes-là étaient même connues du pape à titre personnel. Je pense par exemple au fondateur des Légionnaires du Christ, le père Massiel, hein, mais qui est vraiment quelqu'un qui cumule à lui-même un certain nombre de perversions et de perversités considérables, que ce soit être en contact avec le cartel de la drogue, avoir eu des enfants en dehors du sacerdoce, abuser, etc., de personnes. Bon, le père Massiel, par exemple. Mais c'était quelqu'un qui avait un tel aura, une communauté, je pense qu'ils sont, je ne sais plus bien, mais 2000 ou 3000 prêtres. 2000, 3000 prêtres, dans l'église, ça compte. Ils connaissaient le pape personnellement. Et donc, mais en même temps, il a abusé sexuellement d'autres personnes. Parce que, sous prétexte que la communion avec lui donnerait à l'autre une expérience spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire, c'est utiliser, voir la parole de Dieu. Est-ce qu'il ne faut pas s'aimer les uns les autres, mes frères et sœurs? Oui, il faut s'aimer les uns les autres. Et saint Augustin n'a-t-il pas dit, aime et fais ce que tu veux? Allez, libère-toi. Oui, c'est tout ce langage-là. On utilise les choses spirituelles pour un mélange de genres entre spirituel, sexuel et financier. Les trois souvent vont ensemble. Ensuite, soutirer de l'argent, parce qu'il lui faut évidemment un très gros niveau de vie pour vivre la manière de... Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va pousser le bouchon un petit peu plus. Il va te mettre peut-être la main dans les cheveux, il va te... etc. Si t'es, voilà. Il va être tellement proche... Tu vas te sentir tellement, si tu es une fille, tellement comprise par lui, le manager, que tout le monde idolâtre, et tellement valorisée. C'est ça la question. C'est que la victime, elle se sent valorisée. Parce que la victime, on le verra après, elle n'a pas beaucoup confiance en elle. C'est l'inverse. La victime, c'est le grand cœur. C'est le garçon, la fille qui ne regarde pas la dépense. C'est la personne généreuse. C'est ça la victime. Mais... cette victime-là se sent valorisée d'être auprès de ce manager très charismatique, etc., qui fait qu'elle accepte, cette victime-là, et singulièrement si dans la relation homme-femme, elle accepte parfois des attitudes, des gestes, parfois qui peuvent aller très loin. Et en même temps, il y a un couvercle qui fait qu'elle ne peut pas s'exprimer. Parce que si elle s'exprime, elle perd la valorisation de l'autre. Oui, donc c'est assez intéressant ça. Donc il y a un couvercle, la personnalité narcissique verrouille l'autre, l'enferme, l'isole. Il pratique l'ascenseur émotionnel. Il pratique l'ascenseur émotionnel, joue au yo-yo avec votre affect, vos émotions. Alors là, c'est aussi très fort. Exemple, moi j'ai rencontré une jeune femme il n'y a pas longtemps. Bon, maintenant elle s'est séparée de son mari, vous allez comprendre pourquoi. Une semaine, son mari disait, tu sais, notre mariage est invalide au regard de l'Église. C'est quelqu'un qui connaissait très bien le droit canon. Et l'autre semaine, quand est-ce qu'on achète une maison ? Une autre semaine, notre mariage est invalide. L'autre semaine, on met un bébé en route. Et tac, tac, tac. Une semaine, je sais pas, dans une relation amoureuse, transi d'amour. L'autre fois, dire, tu sais, je suis vraiment complètement plein de doutes. Et l'autre semaine, oui, c'est l'ascenseur émotionnel. Il te tient par l'émotion. Il te tient par l'émotion. Et cet ascenseur émotionnel, ce yo-yo émotionnel, qui est une forme de manipulation, alors plus ou moins consciente, mais ça peut vraiment être le cas, qui fait qu'il y a des personnes qui sont complètement perdues. Je dis, mais j'en suis où de cette relation amicale où un jour ton manager va dire, mais vraiment, t'es mon bras droit, t'es vraiment parmi le top 10 du cabinet, d'avocat, de je sais pas quoi. Le lendemain, il te salue pas. Ça, c'est de la manipulation. Oui, c'est tac, tac, quand tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Il ne me salue pas. Ou j'apprends même qu'il m'a critiqué par d'autres. Ah, tu sais ce qu'a dit un tel de toi. Alors que j'étais son bras droit la veille. Intéressant ça. Il a beaucoup d'admirateurs, mais pas de premier cercle, pas d'authentiques amis. Avoir un authentique ami, c'est laisser voir à l'intérieur de soi-même. Et il a trop peur de laisser voir, parce qu'il y a un vide à l'intérieur de lui-même. Et donc il a trop peur de ça, de laisser voir à l'intérieur de lui-même. Donc il a des admirateurs, comme je vous l'ai dit, préoccupé par sa prestance physique. Hein. Les relations de ses amis sont en étoile par rapport à lui, sans lien des amis entre eux. Ça veut dire quoi ? C'est lui, un peu comme la place de l'étoile, lui c'est l'arc de triomphe, et autant d'avenues, autant d'amis. Mais si ce n'est qu'il n'y a pas des rues qui font le lien entre les grandes avenues. Là, il n'y a pas de lien. Le lien entre les différentes personnes, c'est lui. À tel point qu'il peut très bien t'interdire d'être entré en relation avec telle ou telle personne. Je t'interdis de parler à celui-ci. Si tu veux rester mon ami. Il vous met dans une forme de contrainte. Il a le culte de l'esthétisme, l'idéal de la perfection jusqu'à la tyrannie. Idéal d'infaillibilité, de pouvoir, il n'a pas d'intériorité, il a de capacité de revenir à lui-même car il y a un grand vide en lui-même. Il n'a pas d'intériorité. Et ça, c'est quand même quelque chose pour, quand il s'agit de prêtres singulièrement ou de personnes qui sont dans l'Église, etc., de dire que c'est des personnes qui ont pu nourrir l'intériorité, c'est quand même un mystère ça aussi. De centaines d'autres, alors qu'elles-mêmes n'avaient pas d'intériorité, ne rentraient jamais à l'intérieur. La personnalité narcissique est manipule, c'est à ça qu'on l'a, c'est le symptôme, entre guillemets. Il joue sur les mots, ne termine pas les phrases, manie ce qu'on appelle en psychologie « double bind », en anglais « double bind », la double contrainte. La double contrainte ne laisse à son interlocuteur aucune bonne alternative. Le cas le plus connu, par exemple, la maman qui offre à son fils deux cravates, une rouge, une bleue. Il met la rouge. Ah, t'aimes pas la bleue ? Si, mets la bleue. T'aimes pas la rouge ? Oui. Il y a sans cesse, ou par exemple, cette maman-là dira à son enfant qu'elle l'aime, alors qu'elle montrera avec son visage une violence. Double contrainte. L'enfant, c'est pas à quoi se fier vraiment, parce que il entend quelque chose, mais il voit autre chose. Ils ne respectent pas le territoire de l'autre. Et ça, c'est important de dire qu'ils mélangent. C'est important aussi, juste un petit truc, c'est important de garder son territoire. Même à l'intérieur d'un couple, si vous êtes venu en couple, on n'a pas à fusionner. L'amitié, ce n'est pas de la fusion avec l'autre. Chacun garde son propre territoire. Même en couple, on a gardé son jardin secret. Mais lui, comme il est transgressif, il va aller dans ton territoire, chercher dans ton jardin secret. Et il mélange souvent ce qu'on appelle, surtout si c'est un prêtre, le fort intérieur et extérieur. Il te pousse à la confidence, à lui dire des choses intimes sur toi. Voilà, le fort intérieur et le fort extérieur. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes peut-être pas très habitué de ça. Le fort, F-O-R-S, hein, le fort intérieur, fort extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, les difficultés qu'ont connues un certain nombre de communautés nouvelles viennent de cet aspect-là. C'est que les fondateurs à la fois étaient les supérieurs, donc le fort extérieur, disaient aux frères, fais ceci, fais cela, etc., et à la fois les confesseurs, fort intérieur. C'est-à-dire que le frère ou la sœur était pris entre deux feux, à la fois cette personne dirigeait, et devait obéissance, et à la fois elle était le confesseur. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible parce que où est la liberté de l'autre? La personne, elle est prise en étau. Il pratique la désinformation, voire le mensonge, qui est juste une manière de tourner les choses. Si tu lui dis, mais non, c'est pas exactement comme ça, oh, mais ça, c'est toi qui le dis. Et évidemment, tout est tourné à son avantage. Il y a un hiatus entre le langage verbal et le non-verbal. Divise pour régner, ça je vous l'ai dit. Il est incapable de se remettre en question. Il voit en chacun, comme le vaniteux du petit prince, un admirateur en puissance. Il balaie du regard l'assemblée en quête d'approbation. Ah ! Voilà de la visite, s'écria le vaniteux au petit prince. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans ce rôle-là, qu'on n'est pas câblé comme ça, on a du mal à comprendre ses personnalités. Mais ces personnalités, elles ne vous voient pas en tant que vous, elles vous voient en tant que vous comme potentiel admirateur, venant combler son vide intérieur. Donc c'est pas votre personne qui l'intéresse. Et souvent on voit que c'est... Elle considère les autres comme des pions. C'est le fait que vous allez pouvoir rentrer dans ces raies, pour ainsi dire, hein, et être captivé parce que vous admirez, mais de l'admiration à la soumission, il n'y a qu'un pas parfois. Donc vous êtes captivé, et plusieurs sont captivés par cette. Et donc, du coup, c'est progressivement. Il voit les gens comme de possibles admirateurs, pas comme ils sont vraiment. Voilà. Deuxième partie, donc la première c'était les signes. La deuxième partie, c'est les formes de personnalité narcissique. Il y a plusieurs formes. On va voir du moins apparent au plus apparent, du moins évident au plus évident. Premièrement, la personnalité sympathique. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est celui qui caresse ton affect. C'est celui qui a un regard souriant. Celui qui est vraiment affable. C'est le gendre idéal. Mais simplement, c'est un mari tyrannique. Mais personne ne le voit, parce que ça, il ne va pas le montrer à l'extérieur. C'est celui qui est vraiment... T'as l'impression d'être unique pour lui. Donc, le sympathique. Ensuite, l'altruiste. L'altruiste, c'est autre chose, c'est que... C'est un pseudo-compassionnel. C'est des faux affectifs, c'est important. Même s'il joue sur l'affect, les personnalités narcissiques... ne sont pas affectives, c'est des faux affectifs. Ils ne ressentent rien, ils n'ont pas d'empathie. Ils ne souffrent pas avec celui qui souffre, je veux dire, ça ne les intéresse pas. Ils ne ressentent rien. Il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas cette empathie, ce souci de la souffrance. C'est des faux affectifs. Il paraît très affectif extérieurement, la personne altruiste, mais en fait ne l'est pas. Il rentre en contact avec lui uniquement pour s'assurer que l'autre va être... j'allais dire, il va se sentir, lui, comme sauveteur. L'autre va le mettre en position de sauveteur. Hein, vous connaissez le triangle de Cartman entre bourreau, victime, sauveur. Hein, ce triangle de Cartman. Donc, du coup, il va être souvent dans cette... tantôt comme bourreau, tantôt comme victime, tantôt comme sauveur, on va le voir. Autre forme, c'est la personne cultivée. La personne cultivée, il cherche à étaler ses connaissances, mais non pas à les partager. Utilise son savoir en vue du pouvoir, il brille, mais il n'éclaire pas. Ça, je trouve ça bien trouvé comme formule. Il brille, hein, dit le père Pascaline, mais il n'éclaire pas. C'est-à-dire que son savoir n'est pas là pour aider les autres à rentrer, à élever l'intelligence. Et il y avait, c'est juste pour briller. Mais il n'y a pas de dimension de transmission, de pédagogie, de... Voilà, il va te demander, est-ce que tu connais un tel, etc. Un artiste un peu... Oh, mais écoute, c'est vraiment la personne tellement, tellement importante, je ne comprends même pas que tu ne le connaisses pas. Écoute, où est-ce que tu en es de ta culture G, etc. Et va commencer à t'embrouiller en disant, oui, mais c'est vrai que moi, non, je ne connais pas tous les artistes contemporains. Bon, voilà. Donc, ça va être sa manière à lui d'attirer l'admiration. Le timide, c'est une autre forme de personnalité narcissique. Le timide, lui, c'est différent. C'est celui qui reste, qui ne parle pas, mais qui tisse personnellement avec les uns et les autres des liens, tout en envoyant les autres au front. Et si ça tourne mal, c'est pas lui qui a agi. Il a envoyé, je sais pas quoi, tel junior faire une mission, alors que peut-être il n'avait pas la formation pour, mais il s'est senti tellement valorisé d'avoir une mission que n'avaient que les seniors, par exemple. Alors du coup, voilà. Mais il ne va jamais dire que c'est lui. Et du coup, et si l'autre se casse la figure, ben oui, écoute, voilà, tu n'es pas compétent. Si l'autre réussit, vous avez vu comme j'ai eu le nez creux. Vous avez vu comme j'ai perçu dans ce garçon des capacités. Vous voyez. Donc, mais toujours par derrière, toujours de façon plus timide. Et finalement, le dictateur. Le dictateur, donc ça c'est la manière la plus évidente, c'est celui qui s'impose, mais de façon très claire. Par exemple, dans une communauté, il dira, les statuts de la communauté, je m'assois dessus. Hein, il dira, le charisme de la communauté, c'est moi. Ça a été dit. C'est moi. Donc, ça, c'est le dictateur. C'est celui, voire avec une certaine violence. Donc, c'est plus facile à repérer. Troisième partie, l'approche de la victime. Il procède en deux temps. Tout d'abord, il séduit, au sens littéral du terme, conduire à soi. Il met l'autre sous emprise. C'est ce que dit Paul-Claude Racamier, hein. Il parle de décervelage. Hein, quelque part, l'autre arrive à en perdre sa propre sens critique, tellement il est dans l'admiration. Deuxième temps, quand l'autre est bien dépendant, alors il commence une forme de harcèlement et de culpabilisation. Hein, donc c'est les deux. C'est à la fois il séduit, et une fois qu'il a séduit, quelque part, il harcèle. Alors ça, c'est le pervers narcissique, il fait souffrir en utilisant sa séduction et son emprise sur les autres. Ce n'est pas facile de déceler des personnalités narcissiques parce que c'est des personnes qui ne vont pas consulter les psys. En revanche, leurs victimes remplissent les cabinets des psys, évidemment. C'est pour ça qu'on voit tout dire, mais c'est le pervers narcissique, etc. Parce qu'une fois que la personne est sortie, elle va consulter en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» etc. Par ailleurs, quelqu'un présente toujours. Ah oui. Et puis, ce n'est pas facile à déterminer, donc on est toujours dans la partie 3, l'approche de la victime, et ce n'est pas facile à le déterminer parce qu'il montre toujours la partie lumineuse de lui-même. C'est qu'après qu'on voit la partie obscure de sa personnalité. Mais au début, on voit que la lumière est un peu comme le papillon qui est attiré par la lumière, la victime par la personnalité narcissique. Voilà, c'est qu'après, quand il s'approche, et là, du coup, il est bien pris, et à l'extérieur, c'est le mari idéal, mes parents l'adorent, à l'intérieur, c'est un véritable tyran. Quatrième partie, du côté de la victime, je vous en ai parlé un petit peu, il y a des profils qui favorisent la manipulation. Et une personne, plus elle est unifiée, guérie, plus elle a confiance, moins elle donne prise à la personnalité narcissique. En revanche, les victimes sont des personnes généreuses, aimables, spontanément confiantes, voire naïves, manquant de confiance en soi, en recherche d'une relation structurante, protectrice, trop empathique, tendance à être sauveteuse, renonce à son jugement trop souvent, accepte d'être critiqué, se remet en cause trop souvent. Voilà le profil de la victime potentielle. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la victime, elle est en quelque sorte isolée, elle est un peu bâillonnée. Elle est isolée des autres. Parce qu'aussi, elle bénéficie de traitements de faveur. Ou en faisant rentrer... où elle rentre dans une forme de conflit de loyauté. Mais si je dis, par exemple, si je dis non, par exemple, à mon manager, je vais perdre son amitié et je vais perdre les quelques avantages que j'ai à me laisser manipuler par lui, à être sous son emprise. Vous voyez, du coup, cette personne-là est dans un conflit, ce qu'on appelle le conflit de loyauté. Et donc... et donc c'est intéressant quand cette victime-là sort, il y a des personnes, par exemple, au plan amoureux, sont championnes pour se mettre en relation, en couple avec des personnalités manipulatrices. Et donc c'est intéressant, moi, quand j'accompagne une personne comme ça, qu'est-ce qui fait que tu as été rechercher ça ? Et c'est vrai, moi, une personne qui m'en a parlé il n'y a pas très longtemps, une jeune femme, voilà, qui est aussi dans une relation amoureuse très compliquée, etc. Elle me parlait du lierre et du mur. J'ai trouvé intéressant la comparaison. Le mur étant la personnalité narcissique, le lierre étant la victime. Le lierre épouse le mur, même si le mur est hideux, même s'il a des proéminences, même s'il a des grands creux, etc. Justifie l'agir, quelque part, du mur, et le lierre couvre tout, et le mur se glorifie, regardez comme je suis beau, mais en fait, ce n'est pas lui qui est beau, c'est le lierre qui est beau. Et le lierre, celui qui a la vie, ce n'est pas le mur, c'est le lierre qui est un organisme vivant. Et donc, ce sera difficile... de décrocher le lierre, j'allais dire, du mur, parce que je dis, mais en même temps, si je peux grimper, c'est parce qu'il y a le mur. Du coup, vous ne voyez pas tout ce que cette personne m'apporte. Mais en même temps, elle est complètement prisonnière. Donc, il faudra lui apprendre, oui, tu as besoin, comme hier, tu as besoin de tuteur, mais tu n'as pas besoin d'être mise sous cloche ou d'être tellement attaché au mur que tu n'as plus du tout de possibilité de t'en défaire. Et donc c'est toujours intéressant de pouvoir qu'on sort comme ça d'une relation toxique, de se demander mais pourquoi est-ce qu'on est tombé dans le piège, pourquoi je me suis fait avoir, qu'est-ce qui fait en moi qui a besoin d'être rassuré, qu'est-ce qui fait en moi qui a besoin d'être justement structuré par les autres, et pourquoi je ne me structure pas moi-même, parce que c'est ça, la victime, elle a besoin d'une relation structurante avec quelqu'un qui est mis en valeur, quelqu'un qui est un super valorisé dans son métier, voilà, charismatique, etc. Du coup, ça, quelque part, c'est sa béquille à elle, la victime, et elle se dit, mais oui, mais sans lui, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et petit à petit, c'est l'inviter à lâcher la béquille et découvrir que comme elle n'est pas que victime, elle a aussi des capacités, des potentialités, qu'elle découvre progressivement une certaine confiance en elle. Parce que vous savez, je vous l'ai dit, une des caractéristiques de la victime, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. Et se sert de la relation, quelque part, accepte parfois l'inacceptable, pour pouvoir émerger. Alors, comment agir ? Cinquième partie, comment agir avec les personnalités narcissiques. Donc il y a des choses, alors, une fois que ça a été, alors là, attention, hein, ne pas, encore je vous répète, ne pas mettre ça à toutes les sauces, c'est-à-dire que ne pas mettre, voilà, celui-là c'est un pervers narcissique parce que j'ai du mal à vivre avec lui. Non, il y a des personnes qui ont simplement mauvais caractère, ou il y a des personnes avec qui je ne m'entends pas. Mais vous voyez, c'est des caractéristiques très particulières, la personnalité narcissique. Comme, si vous l'avez repéré un, et que vous avez validé par quelqu'un de compétent, comment agir avec cette personne ? Il y a des choses à éviter, et il y a des choses à faire. Premièrement, les choses à éviter. Éviter de se mettre soi-même, comme victime, en avant. Pourquoi ? Parce que la personnalité narcissique, le manipulateur, il verra l'autre comme une compétition. Il voit, encore une fois, le monde en deux. En deux grands blocs, les admirateurs et les potentiels ennemis. Si tu te mets en avant, tu es un ennemi potentiel. Ne pas l'humilier. Donc, chose à éviter, ne pas l'humilier. Parce qu'il est incapable de se remettre en cause. Ne pas l'affronter d'une opposition systématique. Parce que comme c'est quelqu'un d'intelligent, voire brillant, il tournera les choses pour te montrer et te rappeler tes paroles d'il y a 3 ans et 5 mois, où pam, pam, tu as dit il y a 3 ans et 5 mois ceci, cela, et tu dis aujourd'hui ceci, toi-même, tes propres paroles que toi tu as oubliées. Lui, il s'en souvient, parce qu'il est brillant. Il a une excellente mémoire. Donc il va te confondre. Évitez de se confier à une personne comme ça. Cette personne comme ça fera tout pour attirer les confidences, n'en donner aucune. Évitez d'attendre la réciproque et la gratitude, parce que c'est ça le piège. Comme victime, la victime, elle attend la gratitude, elle voit de quelqu'un qui est en vue, de quelqu'un qui est dans mon entreprise ou dans ce groupe d'amis, bah oui, je vois que c'est l'homme, le garçon avec qui toutes les filles veulent sortir, etc. C'est le gendre idéal, etc. Bon, et du coup, j'attends, je suis gentil avec lui, je suis prêt à rendre service, etc. Et j'attendrai de la gratitude. N'attendez aucune gratitude. Il n'est pas capable de gratitude. Pensez que c'est une personne qui est handicapée de la relation. Ça aide quand vous avez affaire à ça. C'est des personnes handicapées de la relation. Et par ailleurs, très brillantes. Ne pas montrer, donc chose à éviter, ne pas montrer à la personnalité narcissique que vous êtes affecté par son attitude, que vous êtes triste du fait qu'il ne vous ait pas remercié, que vous êtes triste qu'il joue avec vous à l'ascenseur émotionnel. Évitez de montrer ça. Et chose à éviter, c'est ne répondez jamais à des demandes floues de sa part. Parce que le flou, c'est là où il est, où il est roi, il agit en maître. Le double langage, les phrases qu'on commence et qu'on ne termine pas, les interrogations, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Par rapport à ses paroles, par exemple.
Par rapport aux paroles floues.
Aux paroles floues. Il me faut des exemples. Oui, tu as raison, les paroles floues. Bah vous pouvez peut-être m'aider, mais... Non, c'est trop précis. Par exemple, si tu arrives et tout gentil, etc., ça vous a dérangé? Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'as pas la réponse. Telle attitude t'a dérangé? Tu en penses quoi? Et il te laisse avec ça. Au revoir. Voilà, ça c'est une attitude floue. Ça, oui. Oui. À une question, il renvoie à une autre question. Mais il paraît que c'est la définition des jésuites. Donc, qui ne répondent qu'à des questions que par des questions. C'est la philosophie aussi, mais bon. Mais il va répondre de façon, il manie le langage bien, mais de façon qu'à la fin, tu ne sais pas vraiment ce qu'il pense, ni ce qu'il te demande. Il n'y a pas des choses claires. Il y a, encore une fois, il manie, il est à l'aise dans le flou. Et comme il est en fonction, par exemple, hiérarchique dans le monde du travail supérieur, tu te dis, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris. Toi qui tu arrives avec ta bonne volonté de junior, je ne sais pas quoi, tu démarres dans l'entreprise, voilà. Mais ce n'est pas clair. Pardon ? Ah non, il ne développe pas et ne précise pas. Il confond le bien et le mal. C'est tout, sans cesse dans des attitudes assez floues. Ça, il répond à une question par une autre. Oui, c'est ça. Je pense que c'est des choses qui... En revanche, des choses à faire. Désamorcer la manipulation. Comment ? Désamorcer la manipulation en disant, par exemple, je ne comprends pas, en vous mettant en position basse. Attendez, là, vous venez de me dire quelque chose. Excusez-moi, mais je n'ai pas compris. Vous pourriez répéter, vous pourriez m'expliquer. Et puis, vous insistez jusqu'à temps que vous ayez quelque chose de clair. Donc, si j'ai bien compris, c'est ça que vous voulez. Excusez-moi, hein, je suis jeune dans l'entreprise, vous l'avez remarqué. Voilà, ce qu'on appelle se mettre en position basse. Ce qui est important à faire, c'est veiller sur son amour propre. Prendre soin de soi. Ne pas se laisser détruire. Si vous sentez qu'une relation devient toxique, vous n'avez pas à vous laisser détruire. Ça veut dire prendre de la distance. Voire démissionner. Alors, il faut toujours avoir un plan B dans ces cas-là, mais parce qu'il y a des gens, c'est tellement mortifère comme relation, par exemple, dans le monde professionnel qui t'occupe quand même une grande partie de ton temps éveillé, c'est parfois, il y a une personne, je déjeunais avec une personne midi, etc., son papa est médecin, mais le N plus 1 de son papa, par exemple, lui cachait des instruments. Au moment d'opérer, c'est un chirurgien. Il était toujours à lui enlever les clients. Dans l'hôpital public, hein, j'entends, hein, à lui enlever les clients, à le dénigrer, etc., etc. À tel point qu'il en était, mais il était en permanence sur ses gardes, parce que qu'est-ce que l'autre va faire encore pour me tendre un piège aujourd'hui? Une relation comme ça, vraiment... Moi, je vous le dis, sinon vous allez vous détruire. C'est destructeur. Et c'est un homme qui avait 45-50 ans, donc ce n'est pas un jeune interne. Hein, bon. Les choses à faire. Donc, sortir de ménager votre amour propre, ménagez-vous vous-même. N'affrontez la personne narcissique que si vous êtes absolument sûr de votre fait, en étant très précis. Si vous voulez lui faire une remarque qu'il n'acceptera pas, soyez extrêmement précis, factuel. Tel jour, telle heure, il s'est passé ceci. Et même avec ça, il va pouvoir, parce qu'il a de la mémoire, vous confondre. Vous avez dit ça il y a 3 semaines, etc. Donc d'être... voilà, si vous voulez l'affronter. Mais moi, je vous conseille de partir. Moi, si vous êtes face à une personnalité comme ça, foutez le camp. Mais barrez-vous à tout enjamber. C'est mon conseil, mais le père, il n'en a pas parlé, moi, je trouve. Ça, je vous dis, c'est un conseil personnel. Alors, autre chose. Ayez toujours une personne ressource à qui confier votre souffrance. Ne restez pas seul avec cette souffrance. Si par exemple ce cas-là de personnalité narcissique se donne dans un couple déjà marié, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Donc en tout cas, c'est très important de ne pas rester seul. Autre point, chose à faire le deuil d'une communication parfois parfaite. Faire le deuil parfois d'une amitié, voire d'un amour. Faire le deuil d'une communication parfaite, faire le deuil d'une amitié et d'un amour. Ce ne sera pas possible avec cette personne. Pourtant, je pensais être son meilleur ami. Pourtant, il me comprenait comme personne ne me comprenait. Mais je me suis aperçu que pour lui, j'étais qu'un pion. Autre chose à faire, c'est prendre du recul par rapport aux flatteries. Parce que, évidemment, la personnalité narcissique te flatte. Et on sait bien que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et que quand tu démarres, par exemple, dans la vie professionnelle, et c'est encore plus pervers, j'allais dire, dans la vie amoureuse, voilà, c'est... Apprendre à prendre du recul par rapport au flatteur. Apprendre à vous affirmer, à dire non. À dire non. Et c'est en disant non, dire non, c'est dire je. Et dire je, c'est dire non. Et c'est ça la difficulté de la victime. La victime, comme elle n'a pas beaucoup confiance en elle, elle n'a pas beaucoup de recours pour dire non. Pour dire stop. Et c'est quand elle a trouvé le moyen de dire non, et quand elle est sortie de cette emprise, qu'elle va pouvoir libérer sa parole. Je me rappelle comme ça d'une personne, d'un religieux, qui était dans une communauté nouvelle, etc., et qui était sous emprise, qui a même a eu des attouchements sexuels de la part du fondateur, etc. Il y avait une telle pression, parce qu'il était rentré très jeune dans cette communauté, il était celui qui était le bras droit du fondateur, forcément, quand à 18-19 ans, était le bras droit de quelqu'un qui est hyper connu. Bon, jusqu'à un moment donné, il a dit stop. Et il avait tellement pas ouvert, c'est-à-dire, il avait tellement gardé de choses en lui-même que quand il est sorti de cette emprise, pendant 3 jours durant, il a parlé de ce qu'il a vécu. Tellement c'était, il avait été phagocyté, sa parole avait été phagocytée, il était comme sous une chape de plomb. Donc, sortir de ça, se dire, c'est parce qu'évidemment, la personnalité narcissique va isoler la victime, va la bâillonner, va lui faire comprendre qu'elle va perdre des avantages, elle va perdre des... etc. Elle va voir, elle va s'opposer à quelqu'un de très connu. Elle va se peut-être mettre en marge de l'entreprise, en marge du groupe. Hein? Stopper autre chose à faire, les systèmes aliénants en cessant les fausses obligations, les fausses loyautés. Ne vous sentez pas obligé, parce que la personne narcissique joue là-dessus. Et puis aussi s'unir face à elle. Si vous trouvez d'autres alliés, d'autres personnes qui vous disent non, ça c'est pas tout à fait en place cette manière de faire, ben voilà, le fait d'être uni, ça donne plus de force. Dernier point, dernière partie, c'est la sixième. Nous-mêmes, est-ce qu'on n'a pas des attitudes manipulatrices? Si nous ne sommes peut-être pas ici tous des personnalités narcissiques, il faut reconnaître que parfois, nous-mêmes, nous avons des attitudes qui sont manipulatrices. On n'est pas notre personnalité n'est pas celle-là, mais on peut avoir des comme par exemple mentir. Mentir, c'est quelque part ne pas éclairer l'intelligence de l'autre, et c'est vouloir conduire l'autre là où moi je veux. Jouer sur l'affect. Allez, sois sympa, allez, fais-le pour moi, etc. Et comme l'autre, c'est ton copain, il n'ose pas dire non. Voilà. Tendre des questions pièges. Tu fais quoi demain ? Oh, ben, rien de spécial. Ah, tu peux m'amener à l'aéroport ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tes fiches, t'es là, tu vois, c'est double, là, tu es dans une double contrainte. Tu as dit, j'ai rien de spécial, mais en même temps, et du coup, ça veut dire que si tu dis non, ça veut dire que, alors ouais, par rapport à un truc comme ça, quelqu'un qui est comme ça, qu'est-ce que tu fais demain ? Pourquoi tu as besoin de quelque chose ? Faut anticiper. Parce que vous, et puis à la fin, une fois qu'on l'a repéré, on commence à savoir sa manière de fonctionner. Et donc du coup, il n'y a aucune question qui est désintéressé. C'est pas juste pour prendre de tes nouvelles, ou s'il pense prendre de tes nouvelles, mais c'est faussement prendre de tes nouvelles. C'est qu'à la fin, il y a quelque chose qui l'attend de toi. Donc ça, nous, on peut aussi être un peu comme ça, il faut le reconnaître, jouer sur l'affect, ne pas tout dire exactement de notre demande à l'autre, faire un peu le yo-yo émotionnel aussi. Par exemple, bouder. Bouder, c'est une forme de manipulation. Bouder volontairement. Tu fais la gueule. Tu fais la gueule, mais volontairement. Parce que tu sais que l'autre, ça va le culpabiliser, va se sentir très mal. Et donc, il va te dire, ah, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Oui, non, je ne suis pas bien du tout, ça va. Je ne suis pas du tout bien. Pas du tout bien. Dit, mais j'ai fait quelque chose, qu'est-ce que t'en penses ? Mais la parole floue. Ah bon, c'est à ce point-là, ben regarde comment je suis. On a tous plus ou moins, alors c'est caricatural, mais on a pu vouloir bouder, parce que la bouderie, faire la gueule, c'est quelque chose d'assez puissant et un peu volontairement, et donc parce que voilà, pour se faire prier par exemple, vouloir se vanter du mérite d'un autre, de l'action d'un autre, tout ça c'est des attitudes. C'est important aussi de dire, c'est pas simplement les grands méchants là, les grands méchants manipulateurs, personnalités narcissiques, voire pervers narcissiques, non, nous aussi nous avons des attitudes manipulatrices. Pour ne pas en avoir, il faudrait avoir été aimé depuis la naissance d'un amour inconditionnel, ce qui n'est pas le cas, et d'un amour sans faille. Tous nous avons été aimés par nos parents, on peut le supposer, mais eux-mêmes étant blessés, eux-mêmes n'ont peut-être pas pris soin de nous autant qu'on le souhaitait, ou ne nous ont pas mis à la place de... Voilà, donc du coup, les attitudes manipulatrices, c'est un peu... ce vide intérieur, ces peurs parfois, ces angoisses, ces anxiétés, je peux répondre en utilisant les autres. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions ? Oula, plein de questions. Oui, Miss, vas-y. Bien, alors. Attends, on va faire passer le micro. Et je vais répondre, j'ai une grosse voix, ça va. Bonsoir. Oui. Je l'explique pas. J'ai pas vraiment. C'est juste une constatation. Est-ce que la femme est plus dans la l'empathie, par exemple, alors que la personnalité narcissique ne l'est pas, plus dans la sensibilité, plus aussi dans une attitude de soumission et plus encline à rentrer dans ce jeu-là. Voilà, je n'ai pas plus d'explications. Alors, si vous voulez lire le livre, peut-être du père Pascal, il en donnera, mais bon, c'est plutôt des hommes, oui, de fait. Oui, alors, par rapport à une personne saine, c'est que la personne saine se remettra en cause. La personne saine te valorisera et te mettra en avant. La personne saine sera dans une certaine humilité et fera le lien entre les gens. Elle n'attachera pas la personne à elle, au contraire... Par exemple, le cas d'un prêtre, c'est pas, elle veut pas, ce prêtre-là ne veut pas attirer à lui, mais il attirera au Seigneur. Et il dit, d'une certaine modestie. La personne saine, elle fait du lien entre les personnes. Alors qu'on a vu que la personne est narcissique, c'est une relation en étoile. Les amis n'ont pas de contact entre eux, si ce n'est la personnalité elle-même. La personne saine, elle, au contraire, aime que les gens se connaissent, voire se voient en dehors d'elle-même. La personne saine ne fait pas, par exemple... Alors que, on m'en a parlé de ça, on m'a parlé de quelqu'un qui avait organisé un week-end entre amis, si ce n'est que lui, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Le manipulateur en question, il n'est pas venu. Et, alors, évidemment, tout le monde en a parlé pendant le week-end. Comment, c'est toi qui as organisé. Je suis tellement pris. La personne saine ne fera pas ça. La personne saine ne te culpabilisera pas. Elle ne culpabilisera pas l'autre. Si tu as fait une erreur, elle reprendra et te conduira avec pédagogie. Oui, il y en a une autre question. Merci. Est-ce que c'est possible de... Ah oui. Non. Attendez, il y a plein de questions devant. Ah, ensuite j'aurai une annonce à faire. Ok, d'accord. J'ai pas compris la question.
Est-ce que l'intention peut excuser la manipulation
dans le milieu professionnel, c'est ça? Ah, dans le milieu professionnel, alors, non, je pense qu'il y a, disons, alors, soit la personne elle le fait un peu inconsciemment, etc., mais bon, c'est des attitudes de manipulatrice, mais c'est pas forcément une personne. Mais la personnalité narcissique, elle a elle-même une intention claire et nette. C'est sa manière de fonctionner. Si je veux, c'est une manière de fonctionner. C'est pas juste des attitudes. On peut avoir, comme je vous dis, nous aussi, on peut avoir des attitudes. Voilà, on joue sur l'affect du gens, on joue sur l'émotion, etc. Là, c'est une manière de fonctionner. Donc oui, il y a une intention très claire, si c'était la question. Oui. Oui. Alors, évidemment, il a fallu du temps pour que l'Église prenne conscience de ses personnalités, ses connexes, même si ce n'est pas directement lié. Mais c'est sûr que, par exemple, la pédophilie, c'est des personnalités narcissiques, perverses narcissiques. Mais on n'en parle pas parce que c'est encore un autre aspect. Les dérives sectaires. C'est des personnalités narcissiques qui en sont. Donc oui, il y a... ça s'est mis en place progressivement. Pourquoi progressivement? Parce que ces personnalités ne montrent que le côté positif d'elles-mêmes. D'autant plus que si elles étaient à l'origine de communautés qui avaient des vocations, nous, on a des vocations, vous n'avez pas de vocation. On reconnaît l'arbre aux fruits. Un mauvais arbre ne produit pas de bons fruits. Des vocations, c'est des bons fruits. Donc, tac, 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 tu t'enfermes, tu peux pas. Et ça, il faut le démanteler, par exemple. On utilise la parole de Dieu pour justifier. Et surtout, c'est que ça a mis beaucoup de temps pour que des personnes qui étaient en communauté puissent s'exprimer, sortent de ça, qu'on puisse les croire, et alors que c'était des victimes de fondateurs très connus. Le père Pascalide cite un certain nombre de fondateurs dans son livre. Mais aujourd'hui, je crois que, en tout cas, par exemple, ce qu'on appelle la séparation des forts entre fort interne et fort externe, celui qui est le supérieur ne confesse pas, ni dirige spirituellement. Si c'est une mère abbesse, ça ne va pas être la directrice spirituelle de ses sœurs. Une annonce, je vais prendre le micro. Je vais peut-être plutôt une invitation. Voilà. Ok. Juste une petite invitation qui a à voir avec ça, mais qui n'est pas forcément dire. Entre Noël et le jour de l'an, on organise à la communauté une retraite de discernement. Moi, je sais que je tiens beaucoup à cette retraite, qui est en silence. Qui est pour les jeunes pros, les 25-35 ans, donc c'est jusqu'au réveillon inclus, etc., de passer dans la prière, et avoir des critères de discernement qui, bon, même si ce n'est pas directement lié à cette question-là des manipulateurs, c'est aussi bien d'avoir des critères de discernement, ça permet de s'en prémunir. Et surtout, ça permet de se remettre sous le regard du Seigneur, toute l'année qui vient de passer, de remettre peut-être les choix à venir pour l'avenir, pour l'année 2018. Voilà, je voulais juste vous informer de ça. Sur la page Facebook de SPNSP, il y a l'invitation qui est mise. Et voilà. Et donc, simplement, vous, je ne sais pas si peut-être l'un ou l'autre y a participé. Et donc, voilà, vous n'hésitez pas. En tout cas, si vous voulez des renseignements, je me tiens à votre disposition. Et on va laisser la parole à Sarah pour qu'elle puisse présenter ses, Donc la retraite, c'est du 27 décembre au 1er janvier.